qu'il y a 40 ans, dans cette salle, il y avait une sainte effervescence. Pour les plus âgés, les plus anciens, peut-être que vous vous rappelez ce qui s'est passé ici dans cette salle. Alors, on regardait le pasteur dans cette direction. Il y avait des rangées de chaises depuis derrière, juste devant. La salle était pleine. Il y avait une magnifique louange aussi, comme ce matin. Merci aux musiciens. Mais ce qui faisait la différence, c'est que cette église avait envoyé deux couples à Fribourg pour ouvrir une église évangélique de réveil à Fribourg. Et on était un des deux couples, Yvette et moi, et il y avait la famille d'Apozzo. Et c'était un moment incroyable parce que c'est rare quand même qu'une église envoie des enfants de l'église pour une œuvre, voilà, quand même qui est un petit peu particulière. Ouvrir une église, ça n'arrive pas tous les jours. Et puis encore, il faut qu'elle tienne, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent ouvrir des églises aujourd'hui, ça dure 6 mois, puis elles disparaissent. Et aujourd'hui, il y a une magnifique église à Villars-sur-Glâne. Maintenant, ils ont déménagé parce que les locaux ne correspondaient plus. Et voilà, ils sont entre 150 et 200 au culte le dimanche matin. Donc, dans cette salle, il y a eu des centaines de prières qui se sont élevées, parce que nous, on se sentait tellement faibles pour entreprendre cette histoire incroyable. Mais quand Dieu s'inscrit dans une histoire, ben voilà, ça réussit, même avec beaucoup de larmes, même avec beaucoup de combats, de luttes. Et on a pu vivre voilà, toutes ces années. Et on pense en particulier, parce que je vois quand même beaucoup de frères et sœurs africains parmi nous, et vraiment c'est une joie de vous voir ici, parce qu'à l'époque, il y a 40 ans en arrière, il y avait beaucoup de frères et sœurs italiens notamment. On pense à Pietro Ciaccia, on pense au Mattia, on pense... Voilà, c'est des gens qui ont amené quelque chose dans l'Église. C'est des gens qui avaient une foi du Sud, c'est-à-dire qui s'exprimaient. On pense à Pietro quand il priait. Moi, je tremblais presque parce qu'il avait une voix imposante. Mais voilà, on était imprégnés par ce feu de l'Esprit. Et je me disais ce matin, Seigneur, bénis cette Église, et en particulier au travers de nos frères et sœurs africains, parce que vous n'êtes pas seulement ici à Bienne comme ça pour vivre ou pour travailler, mais vous êtes là aussi pour être des témoins vivants de Christ. Et ces gens qui ont été une bénédiction, qui sont retournés ensuite dans leur pays, et on salue nos amis italiens, parce qu'on va leur envoyer la petite vidéo, et voilà, ben, ils sont retournés au pays et ils ont continué aussi à être des bénédictions là où Dieu les plaçait. Alors, ouais, je souhaite vraiment à cette Église un renouveau, un démarrage dans quelque chose de nouveau que Dieu a préparé. Et vous pouvez aussi prier dans ce sens-là. Si vous avez été capable d'envoyer des jeunes dans un endroit comme Fribourg, vous pouvez aussi aujourd'hui recevoir de la part de Dieu quelque chose de très spécifique à votre église pour être en bénédiction, peut-être pour Bienne ou ailleurs. Amen. Voilà. Alors ça, ce n'est pas le propos de mon message ce matin, parce que voilà, j'ai essayé un petit peu de me situer dans le contexte actuel qui est effectivement un peu particulier. Et ça m'a beaucoup travaillé. J'ai essayé de me situer personnellement dans ce contexte. Et j'ai essayé de trouver ce que le Seigneur voulait en tout cas me dire déjà à moi. Mais dans ce que je découvrais, je me suis dit, ben, c'est aussi bien de le partager. Et le dernier message que je vous avais apporté, c'était: est-ce que le Covid-19 est un signe, entre guillemets, supplémentaire de la fin des temps? Alors, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là. Mais ce matin, je vais continuer et me poser une autre question. Mais avant, on va lire dans Éphésiens 4:20. Et le thème donc, du message, c'est le grand dépouillement. C'est le grand dépouillement. Alors, on lit dans Éphésiens 4:20. Je ne sais pas si on peut projeter le texte biblique là. Autrement, je le lis. D'accord. Alors, pour ceux qui ont des Bibles, parce que ça devient rare, hein, dans tous leurs smartphones, mais vous trouvez Éphésiens 4:20. Mais vous, donc vous, moi, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc vous avez été instruits à vous dépouiller, mais vous avez aussi été instruits à vous revêtir de l'homme nouveau. Et en Romains 13, 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Alors, on n'est pas sans ignorer que cette pandémie qui dure maintenant depuis environ une année et demie, hein, maintenant c'est vraiment long, a des répercussions sur l'ensemble de notre société, des effets négatifs tels qu'on les voit là-dessus. Il y a du découragement, il y a de la dépression, il y a de la révolte, il y a de la colère qui se manifestent dans la vie des gens parce qu'ils n'en peuvent plus. Et beaucoup de gens parlent d'un syndrome du dépouillement. Une espèce de mise à nu. La pandémie les a obligés ou contraints à se séparer de certaines choses, à déposer certaines choses, à les mettre de côté, à se débarrasser de maintes choses. Plus de force que de gré. Alors on pense bien sûr à certaines habitudes. On pense à des relations, à des places de travail, à des hobbies, à des rêves de vacances, et puis surtout, et par-dessus tout, à des êtres chers qui nous ont quittés dans des circonstances invraisemblables. Qui aurait pensé ça il y a encore 2 ans en arrière? Alors bien sûr, tout cela provoque sur l'inconscient collectif, ou peut-être le conscient collectif, des réactions qui jaillissent comme ça du tréfonds de l'humain parce qu'on n'en peut plus, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et la question que je me suis posée à un moment donné, en réfléchissant, en priant, je me suis dit, mais et si cette pandémie et ses effets étaient une opportunité et pas seulement un problème? Parce qu'on a l'impression que cette pandémie n'est qu'un problème, un problème mondial. On peut mettre la suivante. Et je pense qu'effectivement, c'est une opportunité aussi. Et nous devons, avec le regard du croyant, dans la foi, regarder cette situation comme une opportunité et pas seulement un problème. Qu'est-ce qui est utile ou inutile dans ma vie? Qu'est-ce qui est prioritaire et secondaire? Qu'est-ce qui est vraiment indispensable ou superflu? On se connaît bien, n'est-ce pas, dans le train-train quotidien de nos vies. On a pris des habitudes. On fait des choses tous les jours, par habitude. Et dans nos activités journalières, on n'y pense guère. Voilà, on se lève le matin, on a déjà fait notre petit programme, on sait ce qu'on va vivre, on sait ce qu'on va faire. Mais une fois arrêté par des circonstances indépendantes de notre volonté, on peut soit s'insurger, se révolter contre cette situation ou se demander qu'est-ce que je peux faire, moi, dans cette situation et avec cette situation. Je crois que se poser de bonnes questions, c'est aussi recevoir de bonnes réponses. Si on se pose pas de bonnes questions, on ne recevra pas de Dieu les bonnes réponses. Et en tant que croyant, on découvre que Dieu n'est ni dépassé, ni pris de court par ce qui est en train de se passer. Il est maître de la situation. Bien au contraire. Et en parcourant la longue histoire biblique, nous découvrons que Dieu est prêt à s'investir, à se manifester de manière surprenante, inattendue, dans ces étapes de dépouillement que nous pouvons vivre. De nombreux récits nous parlent de personnages qui ont passé par ce genre d'expérience. Ils ont, en leur temps, été contraints de déposer ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils espéraient. On pourrait reprendre la liste, elle est longue. On peut partir d'Adam et Ève. Ils se retrouvent à un moment donné nus. Alors bon, ils vont chercher des feuilles de figuier comme nu et culotté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'émission, la télévision. Hop, ils se font une petite ceinture de feuilles de figue, bien sûr, qui n'allait pas résoudre leur problème. Mais c'était une situation dans laquelle ils étaient. Abraham, quand on pense à Abraham, qui doit tout quitter à un moment donné, qui doit sacrifier ce qu'il avait, qui doit aller en direction d'un pays qu'il ne connaît pas. C'est un dépouillement incroyable qu'il vit là. Puis après, on pense à Job, évidemment, qui en quelques jours perd tout ce qu'il possède. Sa famille, ses biens, son bétail, etc., etc., ses richesses. C'est le dépouillement absolu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans chacun de ces récits, ce qui apparaissait de prime abord comme un échec se révèle en fait être une opportunité pour Dieu et pour la personne, pour autant qu'elle soit disponible et ouverte. Alors bien sûr que l'exemple parfait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui à un moment donné va quitter son ciel de gloire, cette présence de son Père, et il est dit qu'il s'est, Philippiens 2:7, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant ainsi semblable aux hommes. Le mot dépouillé en grec, c'est kenō. Ça veut dire se vider. Christ s'est vidé de sa divinité. Il l'a déposé, il l'a mise de côté. Il a mis de côté son égalité avec Dieu pour prendre notre nature humaine. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'il le fait pour se laisser remplir par le Père. Parce que le Père avait en réserve des choses incroyables pour Jésus. Mais il fallait qu'il accepte de se laisser remplir. Et on ne peut pas se laisser remplir quand on est plein. On doit se vider à un moment donné. On doit déposer, on doit mettre de côté. Parce que ce qui nous remplit empêche souvent Dieu de mettre le petit plus qui va donner à notre existence quelque chose de divin, de céleste. Donc il laisse le Père le remplir, le revêtir. Et il a, tout au long de son ministère terrestre, reçu ce dont il avait besoin pour être une source de bénédiction pour toutes les personnes qu'il a rencontrées. Alors attention, une petite parenthèse, parce qu'on est dans un monde tellement chaotique au niveau spirituel qu'il est bon de préciser que se vider n'a rien à voir avec les religions orientales, n'est-ce pas, avec le yoga, la méditation, etc., où on se vide de l'intérieur pour se laisser remplir par une énergie. On ne sait pas trop d'où elle vient, enfin nous on sait d'où elle vient, donc ça n'a rien à voir avec ça. Faire le vide, c'est faire le plein d'énergie dans le yoga, etc. Non, non, pas du tout. En tant que chrétien, c'est laisser mon papa, mon Père céleste, me remplir en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit et déposer en moi ce qu'il a en réserve pour moi. Amen. Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc c'est une relation extraordinaire de penser que le matin Jésus se levait, souvent tôt pour aller prier dans le désert, comme ça. Et puis il était en relation avec le Père, il disait « Hé papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? J'ai prévu ça Jésus, tu verras, je vais te conduire, etc. » Waouh, ça devait être une journée magnifique hein, de pouvoir accomplir les œuvres préparées d'avance. Alors, on va s'arrêter un petit moment ce matin sur quelqu'un qui est peut-être encore plus proche, parce qu'il est vraiment humain de chez humain, c'est Saul de Tarse. Vous connaissez tous l'histoire de Saul de Tarse. Comment Dieu a saisi en fait cette opportunité pour changer le mal en bien dans la vie de cet homme et produire en lui une transformation tellement radicale qu'il va devenir l'apôtre Paul. S'il en était resté à Saul de Tarse, on n'aurait pas eu toutes ces bénédictions au travers des lettres qu'il a écrites et de tout ce qu'il a accompli. Dans Actes 22 et Philippiens 3, il énumère son curriculum vitae, son pedigree. Or, c'est plutôt impressionnant. On peut mettre la prochaine. Vous savez, ça fait penser à ces vieux généraux russes. Pour les plus anciens, quand on voyait le défilé sur la place rouge, puis tous ces gaillards qui étaient sérieux, là, avec toutes leurs médailles, ça pendait à la fin, parce que c'était tellement lourd, hein, que voilà. Et Saul de Tarse ressemblait un petit peu à ces généraux russes, parce qu'il dit, notamment, quand il parle de ce qu'il est, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, issu du peuple d'Israël. » Alors vous mettez chaque fois une petite médaille, hein. « De la tribu de Benjamin, boum, hébreu, né d'hébreu, boum, circoncis le huitième jour, élevé à Jérusalem, formé au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. » Plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant, mettant en prison hommes et femmes. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. Alors, vous voyez, hein, poum, il bombe le torse, là, il dit, hey, les gars. Donc, voilà ce qui revêtait Saul de Tarse à ce moment-là. Voilà de quoi il était vêtu. C'était plutôt bien fourni comme garde-robe, hein, on pourrait dire quand même. Et pourtant, contre toute attente, une circonstance indépendante de sa volonté va le faire tomber de haut, on peut le dire. Il va le faire tomber de haut. Jésus lui apparaît dans son chemin qui l'amène à Damas. Pour lui, c'est un peu le train-train quotidien aussi, hein. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va persécuter de chrétiens? Comment est-ce qu'on va en mettre en prison? Comment est-ce qu'on... Lui, voilà. Et puis après, il retournait pour la paye, quoi, à la fin du mois. Donc, ce n'est pas une pandémie qui va arrêter Saul de Tarse. Ce n'est pas un virus, mais c'est Dieu. Et quand Dieu arrête quelqu'un, c'est vrai que ça fait un peu mal, hein. Au début, on ne s'y attend pas. Saul tombe de son cheval apparemment, ou en tout cas voilà, il lui arrive quelque chose, il est par terre, il entend une voix, il voit une lumière céleste, enfin il voit Jésus, c'est assez incroyable. Comme il était en chemin, nous aussi on est en chemin, et tout d'un coup Dieu peut nous arrêter, pour nous faire vivre peut-être ce qu'on n'a pas forcément envie de vivre, ce qu'on n'a pas imaginé un seul instant, se dépouiller, nous dépouiller. Et c'est ce qui va arriver à Saul de Tarse, mais il va passer par un dépouillement qui sera salutaire. C'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire. Des changements radicaux, une transformation en profondeur vont faire de lui cet homme de Dieu. Mais vous vous rendez compte, tout ce que Dieu avait en réserve pour Saul de Tarse, et il ne le savait pas à ce moment-là. Mais lorsque Dieu décide, maintenant c'est le jour du grand dépouillement pour toi, Saul de Tarse, tu ne te rends pas compte ce que je vais t'amener à vivre et à faire en mon nom et pour ma gloire. Et alors, Saul, devenu Paul, va écrire cette phrase mémorable en Philippiens 3:7. Il dit, mais ces qualités, toutes ces médailles que je portais, toutes ces qualités qui étaient pour moi des gains. Donc c'est vrai que dans l'état où il se trouvait, c'était un gain, parce que quand il se présentait devant les sacrificateurs, devant l'élite religieuse ou intellectuelle de Jérusalem, « Oh, voilà Saul de Tarse !»« Oh, bonjour Saul !» Voilà, hein, il était connu. « Je les ai regardés comme une perte. » Vroom, toutes les médailles, poubelles. « Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte. » C'est-à-dire des choses nuisibles, qui portent préjudice, etc., etc. Ces choses dont je m'étais vêtu, qui me donnaient tant de prestance et de gloire, je les regarde comme une perte. Et même, je les regarde comme de la boue, comme des déchets. Et c'est incroyable de penser que le mot grec skoubalon, qui est utilisé pour boue, déchets, signifie même, excusez-moi, mais excréments d'animaux, comme de la... Voilà. On est dans une église quand même. Donc, vous voyez à quel niveau Saul en arrive, disant, oh, mais ce que j'étais en train de faire, mais j'étais complètement à côté de la plaque. Plutôt que d'exhaler cette bonne odeur de vie, il exhalait l'odeur de mort. Et Saul de Tarse prend conscience que ce qui l'habillait, ce qui le revêtait, son ascendance, son savoir, sa connaissance, son zèle pour la loi, sa religiosité, plutôt que de l'approcher de Dieu, l'éloigner de Dieu. Vous voyez, c'est impressionnant, cette révélation extraordinaire. Alors le réveil, bien sûr, est brutal, mais ô combien glorieux, ô combien glorieux. Et c'est là que nous pouvons nous poser cette question, et nous, aujourd'hui? Et nous, et toi, et moi? Qu'est-ce qui me revêt? Maintenant qu'on a un peu plus de temps qu'avant, puisqu'on est sorti de notre train-train, et que Dieu nous offre cette opportunité pour peut-être vivre quelque chose de... Et j'ai beaucoup aimé dans l'introduction la sœur qui disait, ben oui, quand elle a lu ce texte, en disant, mais il y a peut-être beaucoup de gens en ce moment, on ne les voit pas, mais ils sont dans leur chambre, ils sont remis en question, ils vivent un dépouillement, ils ne savent plus trop où ils en sont. Et Dieu est là en disant, si tu me fais confiance, moi j'ai des choses en réserve pour toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Saul de Tarse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc Dieu n'est pas pris de court. Il est omniscient. Il est plus fort qu'un joueur d'échecs qui peut être 4, 3, 4 coups, 5 coups à l'avance. Lui, il a toute notre vie à l'avance. Et il sait par où il aimerait nous faire passer. Il ne nous oblige pas à passer par là où on veut. Mais il se dit, ah, peu cher, mais pourquoi est-ce qu'il passe par là? Moi, j'avais préparé quelque chose pour là. Pourquoi est-ce qu'il ne m'écoute pas? Pourquoi est-ce qu'il va dans cette direction? Et bien sûr que le cœur de Dieu parfois est déchiré. Mais qu'est-ce qui m'habille aujourd'hui? Qu'est-ce qui me revêt? Est-ce que ça me rapproche de Dieu ou est-ce que c'est en train de m'éloigner de Dieu? Est-ce que ces choses dont je me revêt maintenant en tant que chrétien né de nouveau me donnent de vivre à la ressemblance de Christ ou est-ce que ma vie est toujours un peu comme avant, une espèce de mélange entre l'avant et l'après, entre le passé et le futur? Vous savez, en tant que pasteur pendant plus de 40 ans, j'ai vu toutes sortes. Hein. J'ai vu des gens qui sont partis de zéro et ils ont grimpé la colline. Et puis d'autres, ils sont toujours en train de se poser la question s'il y a une colline devant eux ou si ça vaut la peine de marcher. Donc voilà, c'est pas une accusation, c'est juste prendre conscience qu'effectivement, ce qui est arrivé à Saul de Tarse pourrait aussi nous arriver. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé il y a 40 ans ici. À aucun moment, ma femme et moi, on n'aurait pensé qu'un jour Dieu nous enverrait à Fribourg pour ouvrir une église. Je n'étais pas pasteur, je n'étais pas consacré, comme on dit, mais il y avait à un moment donné comme une vision qui a été prise en compte, d'abord par Gilbert Schwerzmann, après par le conseil, puis après par l'église dans la prière. Et puis, on a commencé de brasser ça dans la prière. Mais je peux vous dire que le jour où la confirmation de Dieu est venue dans nos cœurs, moi, j'étais écroulé. D'ailleurs, Gilbert dit toujours, je me souviens de cette image, tu me disais, tu étais dans ton salon, les bras en croix par terre sur le tapis. Je dis, mais Seigneur, mais qui suis-je, moi, pour m'envoyer là-bas, dans une ville à 99,98% catholique et, Bon, le Seigneur a dit, va parler de Jésus. Allez, vas-y, hop. Et puis, avec cette famille, ben voilà, on a démarré cette chose improbable, inattendue, incroyable, et le Seigneur a été fidèle. Et c'est ça qui fait du bien de se dire, mais avec ma vie, Dieu peut faire quelque chose de divin. Alors, ça ne sera peut-être pas partir dans une ville pour ouvrir une église, mais Dieu a tellement d'idées. Il est tellement créatif dans ce qu'il a. Alors, comme je l'ai dit, ce dépouillement par lequel tu passes, je passe, beaucoup de gens passent aujourd'hui, peut être une opportunité pour Dieu. Et ce matin, tu peux te poser cette question. Il n'est pas pris de court. Alors, j'aimerais continuer dans le sens que, qu'est-ce que Dieu désire faire dans nos vies à un moment donné? Quand on est face à lui et qu'on est honnête et qu'on est sincère et qu'on lui offre notre vie, qu'est-ce que Dieu va faire? Vous connaissez bien sûr les grands couturiers français. Ces gens-là, comme Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin, André Courrèges, vous les connaissez pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur vie à imaginer comment revêtir l'humain, et la femme en particulier, c'est plus facile. Voilà. Donc, ils ont une imagination créatrice fabuleuse, et il y a les modes qui passent. Et c'est pourquoi les modes passent? Parce que les gens ont imaginé de nouvelles manières de s'habiller. Et c'est sans fin, ça revient continuellement. Alors bien sûr, des fois, on retourne dans le passé pour reprendre quelques éléments. Mais voilà. Or, qu'est-ce qu'on découvre dans la parole de Dieu ? Que Dieu est aussi un grand couturier. Et il est le divin couturier. Il sait de quoi il est capable. Il sait comment nous revêtir. Il sait de quoi il veut habiller nos vies pauvres et fragiles. Vous vous rappelez Apocalypse 3:17, hein ? Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, le jour où je réalise que je suis nu, là, je suis peut-être prêt à ne pas aller chercher des feuilles de figuier, mais à demander, Seigneur, mais revêts-moi. Hein? Et Dieu a préparé une garde-robe céleste. Et là, il faut qu'on fasse un effort, parce qu'on est très terre-à-terre quand même. On est très rationnel. On doit pouvoir dire, ah oui, un et un, ça fait deux. Hein? Et quand les choses de Dieu nous sont révélées, on doit faire un effort spirituel. Et par la foi, aller à la rencontre de ce que Dieu dit. Autrement, on passe à côté. On n'arrive pas à comprendre parce que notre petite intelligence, elle est vite mise en défaut. Donc Dieu a préparé un revêtement moral et puis un revêtement spirituel. Il y a une belle histoire dans l'Ancien Testament qui illustre mon propos. C'est Zacharie 3:3-4. Josué était souverain sacrificateur. Il était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange, et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui ses vêtements sales. Ôtez-lui ses vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, Josué, je t'enlève ton iniquité. Je te revêts d'habits de fête. » Mais qu'est-ce qu'il a fait, Josué, pour ça ? Il essayait de servir Dieu dans sa fragilité, dans son humanité. Et tout d'un coup, il prend conscience de ce qu'il est en vérité devant Dieu. Il est sale. Ses habits sont sales. Il n'est pas digne de servir ce Dieu saint, trois fois saint. Qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Je pense que vous avez tous plus ou moins vécu la même expérience que moi. Quand Dieu a commencé de se révéler à vous, la première chose qu'on ressent et qu'on va expérimenter, c'est notre état de péché. Mais c'est le plus beau moment de la vie. Quand Dieu ouvre nos yeux d'aveugle et qu'on voit qu'on est sale devant Dieu, c'est dur, c'est difficile, ça fait mal parfois, ça nous fait pleurer. Mais quel beau moment! Enfin, quelqu'un nous dit la vérité sur nos vies. Elle nous dit pas, regarde, les belles médailles, oh, puis l'équipe, j'étais connu parce que j'étais un bon nageur, toutes les médailles, tous les buts qui marquent au waterpolo. Puis le lundi, on voyait dans le journal du Jura, on voyait le compte-rendu, 4 buts, puis l'équipe. Ouais, moi, j'étais mon bel torse. Mais j'étais sale devant Dieu. Et je me souviens de ce moment où vous êtes saisi par l'Esprit et où vous réalisez, mais je suis... Ça pue, c'est pas beau, c'est pas sortable, c'est pas présentable. Josué était couvert de vêtements sales. Le mot tsov en hébreu, c'est immonde, obscène, ordure. Voilà les mots qui qualifient notre état devant Dieu. On n'en est pas assez conscient de ça. Nous, on met un peu de spray par-ci, par-là, hein, puis on se dit, on est bon. On va au culte le dimanche matin, le pasteur, il ne voit pas toutes les tâches, etc. Bon. Ôtez-lui ses vêtements sales. Quelle grâce. Il n'a pas dû sortir un franc. Les vêtements étaient déjà prêts dans la garde-robe céleste. Et il découvre ça. Je te revais d'habits de fête. Et vous vous souvenez aussi ces moments où quand vous avez enfin pris conscience que non seulement vous étiez sale, mais pardonné, lavé par son sang précieux, adopté comme fils et filles bien-aimés. Alors, c'est vrai, c'est des habits de fête après. Moi, je me souviens, on avait envie de courir dans la rue puis sauter au cou de tout le monde, dire « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime », etc. Amen. Il y a un habit neuf ou des habits neufs à ta taille que tu sois long, petit, maigre, gros, gras, d'être à ta taille. Ils sont là, dans la garde-robe céleste, parce que Dieu est un grand couturier. Alors, je vais terminer. On n'est pas obligé d'attendre que les circonstances nous conduisent à nous dépouiller. Jésus s'est dépouillé lui-même. Et la parole de Dieu nous dit, en Éphésiens 4, 21, « Vous avez été instruits à vous dépouiller. » Ça veut dire qu'on doit se regarder en face de temps en temps, dans la glace ou en face de Jésus, et Jésus nous renvoie l'image. Et il y a des zones d'ombre, des zones grises, des choses qui, dans notre vie, n'ont plus rien à faire. Alors, on ne peut pas tout faire en un jour, en un instant. Hein. Bien sûr, les pasteurs, ils aimeraient que quand les gens se convertissent, ils arrivent, ils étaient sales, là, puis ils sont propres ici. Voilà, 100%. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez vous-même vécu ce long cheminement, parfois douloureux, parce qu'on ne sait pas comment se séparer de certaines choses qui nous collent à la peau. Puis on a prié pour nous, peut-être même des dizaines de fois, et ce n'est pas parti, cette tâche-là. Quand j'étais petit, puis que je n'étais pas grand, il y avait les grands marchés à l'époque à Bienne. Et puis moi, j'aimais bien faire du football. Quand j'étais un gamin, hein, 7-8 ans comme ça, puis j'étais gardien de football. Oh, je sautais, je plongeais dans l'herbe, j'arrivais à la maison, j'étais plein de tâches. Oh, ma mère qui me dit, qu'est-ce que tu as voulu faire? Pourquoi tu n'as pas changé? Et un jour, je passe dans ce marché et il y avait un bonimenteur. On en entend plus tellement de ces gens-là. Vous savez, ces gens qui sont sur une estrade et puis qui font l'article pour un produit. Oh, tous les gens, oh, puis ils se mettent autour, tout ça, puis ils écoutent, puis il a de la tchatch, le gars et tout. Et là, il vendait un produit contre les taches. Oh, je me suis dit, si seulement je pourrais m'acheter ce produit, mais je n'avais pas de sous. Eh bien, Jésus, il nous lave et nous purifie gratuitement quand on va à sa rencontre. Et alors, on doit prendre conscience qu'en tant que chrétien, c'est à nous de faire aussi l'effort de nous dépouiller. Ce n'est pas seulement aux autres de nous dire ce qu'on a à faire ou à Dieu, mais si on est sérieux, on se dit, voilà, est-ce que ma vie ressemble un peu plus à Jésus après une année de conversion, après 10 ans de conversion, après 20 ans de conversion? C'est une question que je dois me poser aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois déposer? Puisque je suis sorti de mon train-train par les circonstances, qu'est-ce que je dois déposer? Qu'est-ce que je dois mettre de côté? De quoi est-ce que je dois me vider aujourd'hui? Alors c'est vrai, c'est jamais facile de quitter quelque chose hein, qui vous colle à la peau en plus. C'est parfois difficile, c'est parfois dur. Ça fait notre identité, on s'y accroche. Mais c'est parce qu'on n'a pas confiance que ce que le Seigneur a préparé pour nous est tellement mieux que ce dont on s'est vêtu. Alors je termine. Peut-être qu'en entendant ces paroles, ce que je vous ai partagé, ça reste un petit peu, comment dire ça, un peu subjectif. Vous savez, des fois, vous allez à la rencontre d'une parole de Dieu et ce n'est pas des choses qui vous viennent comme ça à l'esprit, c'est évident, je comprends. Il y a parfois des choses, moi j'ai dû réfléchir un bon moment, je me disais, ça veut dire quoi se revêtir? Après 42 ans ou 45 ans de vie chrétienne, c'est peut-être la première fois que je me posais cette question. Mais je l'ai dit au début, si on se pose de bonnes questions, on va recevoir de bonnes réponses. Donc, ça veut dire quoi me vêtir de? Alors, je termine avec un exemple très terre-à-terre, très humain. On prend la prochaine. Sur cette terre, bien sûr qu'on a l'habitude d'acheter des habits. Et puis, on s'en revêt. Mais on a pu sentir, hein, c'est important, sentir le tissu. Il est agréable, il est riche, des choses comme ça. Il est soyeux. J'apprécie la couleur, la coupe. Je m'imagine être dedans, dans cette robe. Et puis après, je l'achète. Et puis ça crée en moi, une fois que je me suis revêtu de cette robe nouvelle ou bien de ce magnifique costume, je me sens beau. Et les autres le disent. Ils me regardent. Oh, mais est-ce que tu es belle aujourd'hui? Mais c'est magnifique. Oh, est-ce que tu es beau? Dis donc, un beau costume. Hein, vraiment, il te sied à merveille. Hein, c'est fabuleux. Hein. Quand on évoque un revêtement spirituel, ce n'est pas beaucoup différent. Et c'est là que j'essaye de chercher la simplicité dans des passages qui peuvent paraître un petit peu, un peu délicats, difficiles à comprendre. Rappelez-vous que Dieu nous a fait un don extraordinaire à notre conversion. C'est le don de la foi. Et la foi, elle ne nous a pas été seulement donnée pour l'assurance du salut. Moi, j'ai su que j'avais la foi quand j'ai eu la certitude dans mon cœur que j'étais sauvé. Je pouvais mourir à l'instant même, traverser la route, boum, me faire... Voilà. Je savais que j'étais sauvé. Mais je le savais pourquoi ? Par la foi. La foi, c'est emparée du salut. Mais ça ne s'arrête pas là. La vie chrétienne est faite de pas de foi. C'est toujours le même instrument, c'est toujours cette même grâce qui nous permet d'aller chercher dans le but de trouver. Et c'est là qu'on doit être actif et non passif en tant que chrétien. Ces choses existent. L'apôtre Paul nous encourage, recherchez les choses d'en haut. Est-ce que vous êtes déjà allé chercher les choses d'en haut ? C'est quoi les choses d'en haut ? Ça aussi, je me suis posé la question un jour. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Recherchez, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oulala. J'ai plongé dans ce texte, j'ai commencé de chercher, et tout d'un coup, prof, les choses sont devenues claires. Donc, nous devons être actifs et nous devons aller nous approprier les choses d'en haut. Et c'est un choix. Personne d'autre que toi ne peut faire ce choix. Personne, alors tu es dans une secte ou dans une dictature, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, tu as le choix. Mais personne ne va faire ce choix à ta place. Et il en va de même pour les choses spirituelles que pour les choses matérielles. Ça veut dire quoi ? On va mettre la dernière idée, là. Un jour, vous avez ouvert un catalogue et vous avez vu de belles robes, de beaux costumes. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez le choix. Vous pouvez refermer le catalogue et le mettre de côté. Ou vous dire, ouh, ça me plaît, ça c'est quelque chose dont j'aimerais me revêtir. Et vous faites quoi ? Vous en parlez à votre mari, à votre femme, et vous arrêtez là ? Non. Soit vous allez au magasin avec l'article en question et vous cherchez la chose. Vous dites, bonjour madame, je cherche cette robe. Ah, venez, on va. Voilà. Ou alors vous allez sur Internet, vous regardez les robes, clic, 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 et quelques jours plus tard, un paquet arrive. Qu'est-ce que vous faites ? Vous laissez le paquet à la maison, dans un coin ? Ben non. Vous l'ouvrez. Et puis vous sortez votre robe, vous la mettez sur un cintre et vous la mettez dans l'armoire. Voilà. J'ai ma robe. Vous voyez le lien spirituel ? Mais non. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire ? À vous revêtir. Et c'est au moment où vous vous revêtez de cet habit nouveau que vous êtes dans un habit nouveau. Avant, vous ne l'êtes pas. Vous devez vous revêtir. Et la Bible est pour nous comme un catalogue. Quand je lis la Bible, quand j'entre dans ces textes, je veux dire, oh, qu'est-ce que c'est beau ce passage! C'est magnifique. Oui, je sais qu'un tel, il prie en langue. Un tel, il a don de scie. Celui-là, oh, il fait des études bibliques magnifiques. Je peux en rester là, mais je peux dire, Seigneur, tu peux aussi m'utiliser pour ce genre de choses. Tu peux me revêtir de sagesse. Tu peux me revêtir de discernement. Tu peux me revêtir de... Voilà. Donc, c'est une démarche consciente et volontaire. Dans Ésaïe 61, verset 10, il est dit, « Il m'a habillé du vêtement du salut et du manteau de la délivrance. » Vous avez déjà réfléchi à ce que ça signifie ? Alors, vêtements du salut, on comprend quand même plus ou moins, mais manteau de la délivrance. Au début du ministère à Fribourg, un jour, un monsieur arrive dans mon bureau. Il était manifestement, je dirais, habité. Et il vociférait, il criait, il prend la poignée comme ça, mais sur le profil de la porte, et il se tapait la tête contre la porte. Boum, boum, piaf, le sang qui gicle. Je savais que j'étais sauvé, mais je ne savais pas que j'avais le manteau de la délivrance. Et au bout d'un moment, je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à parler en langue. Oh, mais je ne sais plus ce que j'ai dit, bien sûr. Mais j'ai vu le gars se calmer. J'ai vu le gars s'asseoir. Alors, bien sûr, après un pansement, tout ça et tout. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que oui, le Seigneur me donnait l'autorité spirituelle. J'étais revêtu, je pouvais utiliser le nom de Jésus à bon escient pour libérer les captifs. Puis après, vous voyez tout le reste. Oui, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des démarches volontaires et conscientes. Ne refermez pas le catalogue, surtout quand le Saint-Esprit il vous tient là sur un verset alors que vous l'aviez lu 50 fois avant. Mais la 51e fois, c'est pour toi. Et là, je veux te dire quelque chose que tu n'as jamais compris, vécu, expérimenté, manifesté. Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce que lui, il sait ce qu'il va faire avec tout ça. Et je pense que malheureusement, trop de chrétiens, et ça c'est dans l'Épître aux Hébreux, se contentent de rester dans les langes. Vous savez, c'est agréable les langes. Hein? Surtout quand ils ne sont pas mouillés. Hein? Alors, on reste dans les langes, mais qu'est-ce qu'on veut de plus? On s'occupe de nous, le biberon, les langes, la bouillie, voilà. Au lieu de tendre vers la stature parfaite de Christ. Ça coûte, bien sûr, enlever les langes. Nous, on a un petit-fils, 3 ans. Il ne veut pas enlever ses langes. Il est chez nous, il est tout plein de pipi, mais il ne veut pas enlever ses langes. et moi, je vois des chrétiens, c'est ça. Ils ne veulent pas enlever les langes. Ils ne veulent pas manger de la nourriture solide. Ils restent des bébés spirituels au lieu de devenir des hommes faits dans le Seigneur. Alors que tout est prêt, hein. Tout est prêt derrière. Le Seigneur n'a qu'à dérouler. Et c'est nous qui mettons le frein à main. Alors voilà, frères et sœurs, on finit avec le dernier dia. Jésus a payé le prix. Il faut que tu le saches ce matin, que tu t'en rappelles. Et puis si ça t'arrive, si tu passes par un temps de dépouillement, arrête de paniquer et de te poser mille et une questions, terre à terre et tout. Tu dis, Seigneur, si tu permets ça, il y a d'autres choses derrière. Et ça va couler de source, comme je dirais, hein, parce que c'est le Seigneur qui les a préparés. Alors plutôt que de subir ou de s'insurger contre cette situation, ne craignons pas les dépouillements. Au contraire, bénissons le Seigneur parce qu'il va faire des choses nouvelles qu'on n'aurait pas fait parce qu'on est dans notre train-train quotidien, même de chrétiens. Vous avez été instruits à vous dépouiller, mais aussi surtout à vous revêtir. Et ça vous permettra de traverser cette étape difficile. Cela vous donnera un sens nouveau, différent à votre vie et aux épreuves en particulier. Et ça nous permettra de devenir ces témoins vivants dans notre réalité d'aujourd'hui. Et ce monde en a tellement besoin de voir des gens qui ne sont pas écrasés par cette situation, mais qui vivent quelque chose dans le Seigneur. Amen. Nous voulons prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu es ce Dieu vivant qui parle à nos cœurs. Nous te remercions pour ta parole. C'est vrai, parfois elle nous semble tellement compliquée, mais toi tu es prêt à nous révéler ces choses cachées. Tu as des trésors cachés, des richesses enfouies pour chacun d'entre nous. Et je te demande de libérer les personnes qui ce matin s'imaginent que la seule chose qu'ils avaient à faire c'est de se convertir. Puis qu'après c'est fini pour eux. C'est un mensonge de l'ennemi, c'est un mensonge de la chair. Seigneur, tu en réserves une histoire sainte pour eux. Et je te demande de libérer toutes ces petites ou grandes histoires que tu as préparées, parce qu'elles sont saintes, elles sont mises à part, elles sont différentes des histoires de ce monde. Et je te demande, Seigneur, aussi pour chacun d'entre nous, de pouvoir profiter de cette situation de pandémie pour nous laisser revêtir par toi. Tu sais où nous en sommes. Le regard que tu poses sur nos vies est un regard vraiment saint et juste et vrai. Et tu sais ce que tu peux faire avec nous, comme tu l'as fait avec moi un jour. Seigneur, merci de bénir chacune de mes frères et sœurs ici. Merci d'étendre ta main. Merci de leur faire vivre aussi en Église une nouvelle étape, comme nous l'avons vécu il y a 40 ans en arrière, où cette salle était pleine de prières, de louanges, d'adorations, parce que tu nous entraînais dans un chemin nouveau, dans une étape nouvelle. Seigneur, merci. Merci d'être avec chacun d'entre nous, à la gloire de ton nom. Amen. Voilà, Seigneur vous bénisse.